On commence tout de suite avec, ben avec Gisèle.
Bien, donc moi je vais vous parler du projet Interco SSH, International Cooperation in the SSH, donc qui était la réponse à un call collaboratif du 7e programme cadre. Excusez-moi, je parlerai en franglais. Voilà l'appel, hein, c'était Activity 8-8, action horizontale, et donc vous voyez le call porté, il avait un sujet précis, The Future of Social Sciences and Humanities in the Context of the European Research Area Collaborative Project. Donc c'est un projet collaboratif qui s'appelle Small Medium Scale, parce que c'est seulement 2,5 millions d'euros par rapport aux Large Scale, qui sont 5 millions. Et l'avantage des Small Medium Scale, c'est que ça se fait avec 6-7 partenaires, tandis que les projets à 5 millions, Philippe me corrigera, mais je pense qu'il faut arriver à une masse critique d'une vingtaine d'institutions. Et donc, pour la gestion, si c'est votre première expérience, c'est peut-être mieux de commencer par les Small Medium Scale. Le projet. Alors l'intérêt de cet appel, c'est qu'il prenait en compte la dimension historique, c'était l'avenir des sciences humaines et sociales, mais pour penser l'avenir, on nous demandait quand même de réfléchir au passé, ce qui était dans nos compétences, parce qu'on ne fait pas vraiment de la prospective. Et donc nous avons réuni, enfin j'ai réuni une équipe de 7 partenaires, donc je ne vous dis pas, vous voyez les noms, donc je dis juste Cambridge, Bologne, Rotterdam, Graz, Wesley Theological College en Hongrie, CONICET en Argentine. Donc j'attire votre attention sur l'Europe de l'Est. Je pense que c'est important d'avoir un pays d'Europe de l'Est. Je pense que la Commission fait attention à ces choses-là. Et puis aussi au fait que nous pouvons tout à fait faire bénéficier des financements européens des pays non européens du Sud, enfin ce qu'on appelle le Global South. Donc, en l'occurrence, l'Argentine, on ne peut pas faire bénéficier des pays nord-américains. Ils peuvent être partenaires, mais s'ils sont partenaires, ça voudra dire qu'ils doivent faire des rapports sans toucher un sou. Et donc, en général, ils préfèrent laisser tomber. Mais vous pouvez les intégrer dans les équipes d'une manière ou d'une autre, mais sans qu'ils soient partenaires administratifs. Voilà. Alors, le montage, moi, je l'ai commencé 6 mois à l'avance, et ça n'a pas été de trop, je dois le dire. C'est pas été du plein temps, mais ça a occupé beaucoup de temps. Et je vous rassure, ça n'est pas la partie scientifique qui prend le plus de temps. La partie scientifique, on a beaucoup travaillé avec les partenaires dont je connaissais une bonne partie, et bon, on avait avec certains déjà travaillé ensemble, et je pense que c'est important aussi. Donc on a pu travailler assez vite en échange par mail sur le projet, sur différentes moutures du projet. Et il y a aussi le fait que j'ai réussi à réunir les partenaires avant le dépôt. On a fait une sorte de workshop, ils ont été prêts à venir, à financer leur voyage à Paris pour qu'on fasse une réunion. Ça a été très, très important, très productif. Mais évidemment, ce qui a pris le plus de temps, c'est la partie management. Alors, avant d'y venir, quand vous présentez un projet, il doit être organisé en work package. C'est important de penser les work package à l'avance, et il ne faut pas les penser comme des axes de recherche, en fait. C'est différent. Vous serez évalué sur la mise en œuvre. Par exemple, on m'a fait, et ça c'était l'aide que j'ai reçue, je vais en dire un mot tout de suite, comprendre qu'il serait important d'avoir un work package management et un work package dissémination. En plus des work packages scientifiques qui étaient organisés de manière à faire travailler les gens ensemble. Ce n'était pas un work package par équipe, mais c'était des axes transversaux, enfin des problématiques transversales. Donc vous voyez, il y avait un axe sur les patterns of institutionalization of the SSH in comparative perspective, donc institutionnalisation comparée, et on a première étape, ça a été la construction d'indicateurs et la production d'un handbook d'indicateurs. Ensuite, le Work Package 3, c'était des indicateurs d'échange et d'internationalisation. Donc, par exemple, bon, je dis très vite, hein, mais les traductions, c'est des indicateurs qu'on peut faire quantitatifs, mais aussi qualitatifs, mais on peut avoir des données quantitatives. Traduction, co-signature internationale, association internationale et européenne de sciences humaines et sociales, formation d'un espace européen de la recherche. Et puis, on a aussi la question des rapports Nord-Sud qu'on souhaite aborder. Chaque work package est organisé en tasks, et c'est très important parce que vous allez mettre des personnes moi sur les work packages. Et donc, il faut avoir une organisation claire, en fait, de la division du travail et confier les tasks à des gens en particulier. Ensuite, et il y a des institutions. Ensuite, il y a le Work Package 4, qui était circulation des paradigmes, théories et controverses, et aussi diffusion des grands penseurs. Voilà. Et là, l'idée, c'était d'essayer de dégager des patterns, configurations de circulation à la fois internationale et interdisciplinaire. Enfin, quels sont les chercheurs, quelles sont les propriétés de ces grands penseurs qui arrivent à traverser les frontières. Voilà. Ça, on avait 7 disciplines et 7 pays, donc je ne détaille pas, vous les voyez. Je précise juste que au moment de la négociation, des évaluations, on nous a demandé de restreindre parce que ça paraissait trop large, donc on a vraiment resserré sur les 7 pays. Voilà, je voudrais juste insister sur le fait que le CNRS m'a affecté une ingénieure d'études pour le montage du projet, qui évidemment ne faisait pas que ce projet, mais ça a été extrêmement précieux. Et sans ça, je pense que je n'y serais pas arrivée. On a eu 5 sur 5 au management et je suis très reconnaissante à Claire Bouche. J'ai été beaucoup aidée par les PCN, par toutes les interlocuteurs, et ça a été vraiment dès le départ. Je me suis adressée à eux dès le début et ça a été très important. Donc je disais, vous allez être évalué sur la mise en œuvre. Il y a 4 principes d'évaluation: la qualité scientifique, la mise en œuvre, la gouvernance et l'impact. Pour le management, je vous conseille de pas vous adresser à des cabinets, mais plutôt de travailler, si vous pouvez avoir un ingénieur, ou travailler avec les bureaux des universités, et puis après de recruter plutôt un manager à mi-temps. Nous, on a réussi, grâce à Claire Bouche, d'avoir un manager qui travaille sur notre projet et sur un autre projet en même temps, donc elle a réussi à faire un matching comme ça. L'importance du governing board, donc il faut le penser, vous serez évalué là-dessus. On a constitué un advisory board assez prestigieux, c'est important aussi, international, interdisciplinaire. Je souligne aussi la question du gender assessment, qui fait partie des projets collaboratifs, donc mettre en avant comment vous allez. Alors nous, par exemple, on a mis en avant qu'on allait recruter un maximum de femmes. Ça a été beaucoup plus facile sur la France que sur d'autres pays, et je veux dire, sur d'autres pays, c'est pas évident de trouver sur ces sujets, et même même parmi les chercheurs, et je parle même pas des doctorants, voilà, mais on a réussi sur certains. Je veux dire un mot de l'impact, parce que ça n'a pas été peut-être assez évoqué jusqu'à présent. On a dit l'importance de l'impact, mais l'impact, il faut le penser selon le type de public, donc il faut penser l'impact scientifique, donc ça, c'est des colloques, c'est les publications, articles, ouvrages. Bon, les ouvrages, ça peut viser aussi un public plus large, mais par exemple, nous avons obtenu la création d'une collection chez Palgrave autour de ce sujet, et ça faisait partie de notre objectif aussi de créer des SSH studies, c'est-à-dire de constituer un domaine de recherche. Alors les étudiants, donc on a fait des séminaires, et puis on a organisé une summer school qui a été qui a très bien marché. Donc c'était pour former les étudiants dans ce domaine. Le grand public, c'est un travail plutôt de dissémination dans les médias ou les conférences publiques ou des expositions. Ça dépend évidemment de vos sujets. C'est à vous de trouver ce qui correspond. Et il faut bien penser à la dimension des policy makers, qui sont évidemment la Commission européenne en première instance, mais aussi les instances gouvernementales. Par exemple, l'Institut français est intéressé par ce qu'on fait. Voilà, donc ça, il faut penser à ça. Et il y a un format de produits destinés à ces policy makers, c'est la policy brief. Alors, il y a des formats de policy brief, il faut les chercher, en tout cas, il faut bien avoir en tête que c'est ça qu'il faut produire. Si vous n'avez pas ce mot-clé, voilà. Voilà, bon, j'avais un mot ou deux sur les obstacles. Bah, évidemment, il y a des différences de tradition nationale, y compris dans des mêmes disciplines, des manières de penser, des rapports théorie-empirie différents. Ce n'est pas toujours évident. Il y a des difficultés qui sont liées à la langue, ça a été évoqué. Évidemment, il n'y a que l'échange et la concertation qui peuvent permettre de surmonter ces obstacles, qui sont rendus encore plus difficiles par l'éloignement, mais on travaille beaucoup en communication et on se réunit une à deux fois par an. On a aussi refusé le tout anglais dans le projet, même si on communique en anglais, c'est-à-dire qu'on a dans le projet l'idée de disséminer dans toutes les langues des collaborateurs. Et ça, c'est vraiment... on a déjà une publication en hongrois par Victor Karadi, j'en suis très fière. Voilà. Et parmi les aspects positifs, ce que je voudrais dire aussi, c'est l'intégration de jeunes chercheurs. Évidemment, c'est une manne. On a parlé tout à l'heure des coûts indirects et de nos salaires. Nos salaires, côté CNRS, c'est pas le cas dans d'autres institutions. Et moi, j'ai demandé à mes collègues de toutes les institutions de renoncer à leur salaire au profit de l'emploi. Et ils ont tous fait ça. Enfin, c'est pas toujours possible, hein, parce qu'il y a certaines institutions qui ne restituent pas les coûts indirects. Mais en tout cas, on a reversé ça et ça permet d'embaucher un maximum. Alors évidemment, c'est de l'emploi précaire. Mais enfin, quand on voit le nombre de thésards en SHS qui n'ont pas de contrat doctoral. Je peux vous assurer qu'avoir quelques mois de mi-temps sur un projet qui est proche de leur travail, qui va leur donner une ligne importante quand même sur leur CV de participation, qui va leur donner une expérience de recherche et d'échange avec des collègues plus avancés d'autres pays, c'est vraiment bénéfique. Voilà. Excusez-moi. Si...
Non, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci bien, Gisèle. Donc, ça, c'était un projet important hein, pour nous, puisque je le suis moi-même de près. Et je crois que c'est très juste aussi de dire que autant la présentation, la préparation du projet se fait en anglais, une grande partie de la diffusion se fait en anglais, mais ce n'est pas exclusif. Hein, évidemment, nous souhaitons qu'il y ait des retombées au niveau national. Et ces retombées, c'est d'abord l'emploi. Ça, c'est très important, et vu que c'est très difficile pour nos jeunes collègues, mais aussi évidemment, en termes de langue. Donc, évidemment, nous appuyons beaucoup le fait que tous ces résultats collectés au niveau européen à travers des collaborations et également soient traduits, enfin, ou utilisés dans le langage local. Alors, je me retourne vers Sébastien maintenant, parce qu'il va nous présenter quelque chose sur, plutôt sur les aspects donc, de Marie Curie.
Merci beaucoup. Alors, moi, c'était effectivement un programme de financement RISE qui a été présenté précédemment, et ça recoupe en partie ce qu'a dit Gisèle. Donc, je vais essayer d'insister sur un certain nombre de spécificités. Le programme s'appelle INCAS, et donc c'est un peu un faux ami parce que c'est INCAS pour Institutional Change in Asia. Le point de départ, donc, c'est un projet qui relève de l'économie politique sur le changement institutionnel, sur l'impact du processus de libéralisation. Et nous avions un certain nombre de problèmes. D'abord, on voulait de façon ambitieuse faire une comparaison entre l'Europe et l'Asie. C'est bien beau, mais vu l'éloignement, ça pose des problèmes de budget hein, pour se rendre sur place et pour étudier, en sachant que dans le domaine, enfin, généralement en économie, la notion de terrain est assez peu répandue, hein, mais nous, il y a cette composante était importante, donc on cherchait quelque chose qui nous permette d'être mobile. Et en collaboration avec des institutions asiatiques, donc pas seulement intra-européennes. Et puis on avait déjà des contacts avec des universités, Freie Universität Berlin, Oxford, et des institutions qui sont à la frontière du milieu académique, par exemple comme le think tank Bruegel à Bruxelles. Et suite à des visites, donc à deux visites à Bruxelles et puis une discussion intense avec l'équipe de Philippe Casella, on nous a orienté vers ce programme RISE qui semblait correspondre le mieux à nos besoins pour mener à bien ce projet de recherche. Voilà. Alors, un élément aussi que je voudrais présenter, parce que ça a été souligné précédemment, je pense que c'est pas mauvais d'avoir eu l'occasion de travailler déjà avec ses partenaires et d'avoir une expérience de financement sur des financements nationaux plus modestes. Et en l'occurrence, on avait déjà eu sur ce projet un financement du CNRS de type GDRI, qui les critères, enfin la constitution du dossier est différente, etc. Mais ça a beaucoup aidé à présenter un projet convenable. D'un projet de candidature. Alors moi, je n'ai pas calculé exactement, mais je pense que ça a été une préparation d'environ 3 mois. On a vraiment, le HESS est coordinateur hein, de ce projet. Je trouve que la première version du projet scientifique qu'on avait écrit était absolument géniale, mais on a tout réécrit parce qu'il a fallu le traduire en bruxellois. Et là, je dois dire que je ne serais certainement pas ici sans l'équipe de Philippe et notamment Caroline Chu. Alors comme tu le disais, Gisèle, c'est vrai que l'excellence scientifique, c'est le plus important. Hein. Ça représente, on est noté, hein, ça représente 50% de l'évaluation totale pour ce projet-là, pour ce projet RISE. Mais il y a deux autres parties. Hein, c'est un peu le même esprit, mais l'évaluation, voilà. Donc, après, il y a la partie impact, comme toi, 30%, et la partie implémentation, 20%. Et avec le meilleur projet du monde, s'il n'y a pas toute une préparation sur les deux autres aspects, impact, eh bien, ce n'était même pas la peine d'y penser. Hein, donc, la qualité scientifique, c'est très bien, mais il y a effectivement un effort de traduction à faire, et ne surtout pas oublier toute la partie, je dirais, management, impact, etc. Alors, résultat, c'est un projet, une source de financement qui est vraiment dans la catégorie petite hein, par rapport à tous les chiffres que vous avez entendus. Ça représente sur 4 ans seulement 800 000 euros, dont 400 000 pour le HESS. Il y a une petite trentaine de membres, dont la moitié sont des jeunes chercheurs. Et bon, alors voilà, donc c'est voilà ce que ça représente. Au niveau maintenant de donc ce projet a commencé il y a un an. Alors qu'est-ce que ça nous a permis de faire? Bah, tout simplement, ça nous a permis de réaliser ce qu'on n'était pas en mesure de faire avec les budgets dont on dispose à l'EHESS, au CNRS. C'est vraiment donc d'envoyer nos chercheurs, nos jeunes chercheurs et les moins jeunes au Japon et en Asie pour des durées d'un mois, voire plus. Hein. Donc ça représente un coût. Je ne reviens pas sur les éléments qui ont été précisés. Et c'est vrai que peut-être un point sur ce programme RISE. Bon, 2000 euros par mois pour aller au Japon, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut des cofinancements. Il y a aussi ce qui va avec. Hein. En plus des 2000, il y a donc, si je compte bien, quoi, c'est 2500, hein, donc, qui peut compléter, mettre du beurre dans les épinards. Mais cette somme peut nous aider également à mettre en œuvre le projet en Europe. Donc, je trouve que la façon dont ça a été conçu convient à nos besoins. Donc, c'est un projet de recherche, et je souligne seulement 2-3 points. Donc, c'est classique, on organise des workshops, des mobilités. Le point important, c'est tout le suivi financier et juridique. Effectivement, on n'a pas ces sommes sans des contreparties, et donc il y a nécessité d'une certaine rigueur, et il y a une équipe pour nous soutenir. Ça a pu aussi, c'est intéressant pour ton cas sur Palgrève, je crois qu'on est aussi rentré en négociation avec des éditeurs, et ça facilite un peu, je pense, notre stratégie de publication. Et pour terminer, donc je terminerai par des difficultés, et puis une note positive. Les difficultés, elles ont été soulignées, ne pensez pas conduire ce type de projet sans l'embauche ou l'aide d'un gestionnaire. Hein, il y a vraiment un travail sur les délivrables, sur les suivis. Donc, vraiment, c'est une composante extrêmement importante. Deuxième difficulté, elle est très simple, c'est de travailler avec les Anglais. Hein, si j'avais la chance, l'occasion de choisir à nouveau, je ne le ferais pas. On a eu vraiment des difficultés considérables avec Oxford, et pas liées tellement aux chercheurs qu'à l'administration, aux règles spécifiques qu'ils introduisent. C'est absolument insupportable. Mais parfois, c'est effectivement, il y a des chercheurs de qualité. Une bonne nouvelle, du point de vue, ça arrive. Du point de vue japonais, il faut savoir que nos partenaires japonais donc, ont été absolument ravis de participer à ce projet, mais il y a eu une très bonne nouvelle pour eux, et ça peut nous inciter à travailler avec des collègues. Je pense que ça doit se passer un peu de la même façon en Corée. L'organisme de financement de la recherche là-bas, qui s'appelle la GSPS, a complètement intégré, suivi de très près Horizon 2020 et nos financements de la recherche, à tel point que quand nous avons reçu, 6 mois après avoir été sélectionnés, pour eux, ça a été absolument automatique. Ils ont envoyé ils ont préparé un dossier, etc. Hein, mais le fait qu'ils faisaient partie d'un consortium financé dans le cadre d'Horizon 2020 leur a permis d'obtenir un financement 2 fois supérieur au nôtre, hein, parce qu'on ne peut pas financer la mobilité des collègues japonais avec ce programme, hein, c'est pour les chercheurs européens, mais ça a été, ils me l'ont dit, vraiment quasi automatique. Et donc, ça peut être une incitation à travailler avec des collègues asiatiques, hein, qui ont complètement intégré nos modes de financement, et c'est un critère important pour eux. Voilà, donc ma petite expérience, c'est Horizon 2020, c'est possible, et malgré le fait que peut-être cet Horizon 2020 me semble un peu trop eurocentré, malgré tout, il y a une place pour les aires culturelles et pour des collaborations avec des partenaires hors Europe. Voilà, merci à vous.
Merci bien, Sébastien. Alors, ne tirez pas de conclusion entre la qualité des chercheurs britanniques et puis le fait qu'ils aient autant de succès dans nos programmes. Une chose très importante, là, pour que ce soit bien clair, c'est que le programme d'Horizon 2020 sont en général complètement ouverts à la coopération internationale, et y compris donc au paiement. Donc nous payons les chercheurs étrangers de quelques pays qu'ils soient, avec des exceptions, c'est-à-dire les pays qu'on estime pays riches. Donc on ne va pas payer les Américains, on ne va pas payer les Japonais, on ne va pas payer les Canadiens. Et depuis au début d'Horizon 2020, on a décidé que les Chinois étaient riches, donc on ne va pas les payer non plus, que les Brésiliens sont riches, etc. Donc tout ce qu'on appelle les BRIC, notamment, y compris donc les Mexicains, on ne les paye pas. Mais par contre, si vous voulez avoir des coopérations avec des Algériens ou avec des Argentins ou avec des Thaïlandais, etc. Je vois mes collègues de l'EFEO là-bas qui font ça. Eux sont payés, ils peuvent recevoir des budgets, les gérer, payer leurs chercheurs, etc. Donc voilà, je me retourne maintenant vers Benoît Hazard, qui est à ma gauche, pardon, qui était à ma droite et qui est à ma gauche, et qui va donc nous présenter de nouveau un projet lié plutôt à Marie Curie.
Oui, voilà. Alors je vous présente un projet qui a démarré il y a un an et demi, qui s'intitule Résilience des paysages en Afrique de l'Est, identifier les seuils critiques et les trajectoires durables. C'est un projet ITN Marie Curie, donc comme ça a été rappelé ce matin, élaboré d'abord dans le cadre du 7e PCRD, mais grosso modo on est à peu près dans les mêmes cadres dans les projets H2020, et qui finance qui est un réseau de formation initiale visant à former des jeunes docteurs qui, comme vous l'avez bien précisé, n'auront pas nécessairement à produire une thèse à la fin, même si dans le cadre de notre réseau, c'est ce qu'on attend. Et nous, ça nous permet, je viens du milieu des études africaines, de former toute une génération de jeunes chercheurs africains en particulier aux méthodes des sciences sociales dans un espace ou dans un environnement où un certain nombre de jeunes chercheurs peuvent connaître des difficultés d'accès au domaine des sciences sociales et dans un cadre aussi européen. Donc c'est un projet qui dure 48 mois, qui est un projet scientifique aussi porté par cette université européenne, donc l'université d'Uppsala, de Stockholm, Suède, York, Warwick, Cologne et Gand, et le HESS Paris. Le HESS est partenaire de ce projet, qui est piloté par Paul Laine à Uppsala. Et on a aussi intégré dans les partenaires 6 partenaires associés qui ne bénéficient pas en fait des subsides dispensés par les ITN, mais qui ont un rôle central en fait dans l'organisation du dispositif, en particulier dans la formation, puisque ce sont des collaborateurs scientifiques que nous avons en général sur nos terrains en Afrique de l'Est, donc entre autres les instituts français de recherche en Afrique, mais aussi des ONG, on va dire plutôt anglo-saxonnes, très fortement, ou américaines, très fortement impliquées dans les problématiques de la conservation en Afrique de l'Est. 2 partenaires privés, un partenaire qui travaille sur... qui est une association... de sciences citoyennes, on va dire, installées à Stockholm et qui travaillent sur la question du marché du carbone, et un deuxième partenaire privé avec lequel ça n'a pas trop fonctionné apparemment, mais c'est du côté de Stockholm, qui est Bayer, producteur de produits pharmaceutiques. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que ce type de programme est d'abord conçu pour permettre la mobilité des chercheurs, mais surtout la mobilité des jeunes chercheurs ESR, Early Stage Researcher, qui sont recrutés. Et en fait, c'est vraiment ce travail collaboratif d'interlocution entre des jeunes chercheurs recrutés qu'on essaie d'amener au niveau thèse et des chercheurs qui sont confirmés, qui va créer en fait une dynamique d'ensemble et qui va permettre de produire un nouveau type de savoir sur la compréhension des changements socio-écologiques en Afrique de l'Est. Je dois dire en amont du projet rapidement que ce projet il existait en fait, il avait des bases scientifiques dans un précédent ITN qui s'appelait IEAL, dont je ne faisais pas partie, mais grosso modo dans lequel étaient impliqués des gens qui travaillaient dans le domaine de l'écologie scientifique et qui se sont rendus compte à un moment donné que pour comprendre la question des changements socio-écologiques en Afrique de l'Est, il fallait travailler sur les interactions homme-environnement et que donc il fallait un petit peu élargir le spectre des disciplines présentes dans le projet. D'où en fait l'adresse ou l'invitation qui m'a été faite sur la base de collaboration de terrain qui préexistait de participer à ce projet en tant qu'anthropologue. Mais aussi, on avait un certain nombre de questions communes par rapport à des changements sur un terrain ou sur une aire géographique très localisée, le Kenya, la Tanzanie, éventuellement le sud de l'Éthiopie, où on voit des économies qui sont très fortement liées au pastoralisme ou à l'élevage être de plus en plus incluses dans un marché global qui, par ailleurs, ont à faire face à des situations de confiscation des terres pour des projets de conversion liés à la transition écologique, et tout cela dans un contexte global qui est celui du changement climatique. Donc voilà un petit peu l'ensemble des questions qu'on se posait et qui nous ont conduit dans un deuxième temps à formuler un projet un peu plus scientifique autour de la compréhension des changements socio-écologiques à partir de la notion de paysage. Alors je voudrais mentionner, vous voyez cette carte, en fait, ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est que c'est un projet qui est très très localisé, qui pourrait à la rigueur se présenter comme une monographie. Mais ce qui fait la force du projet, c'est pas tellement l'espace, c'est l'interdisciplinarité qui est sous-jacente au projet et qui pose la question de la compréhension d'un espace, de ses paysages, etc., dans la longue durée. Et cette longue durée, en fait, implique une interdisciplinarité entre des sciences dures comme la liminologie, la palynologie, l'archéologie et des sciences beaucoup plus récentes comme l'anthropologie. Et je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit parce que ce type de projet-là, on le voit de plus en plus apparaître, que ce soit dans les ERC ou dans les ITN. Et il y a une, le tout, c'est de comprendre comment on fabrique de l'interdisciplinarité. Rapidement. Le projet qui concerne le HESS, c'est celui de l'ESR9, qui porte sur le développement de l'énergie géothermale, géothermique dans les Maasai Land, et qui, en fait, nous a permis, dans une perspective interdisciplinaire, de rassembler un certain nombre de données que vous voyez là apparaître, d'ordre ethnographique, d'ordre écologique, mais qui, au fond... nous oriente ou réoriente un questionnement scientifique sur des questions qui sont celles de l'éthique environnementale, de quelle est la place du développement au regard des problématiques de la conservation de la biodiversité ou des paysages culturellement modelés. Et tout cela est questionné sous la thématique des paysages contestés. Alors j'en viens un petit peu à la partie la plus intéressante pour moi en tant que chercheur de ces projets d'ITN, c'est la partie activité du réseau. En fait, on dispose, au-delà du salaire qui est celui affecté aux doctorants ou futurs doctorants, et qui, par ailleurs, est un salaire assez conséquent. Les early stage researchers dans le programme REAL sont mieux payés qu'un chargé de recherche de première classe du CNRS que je suis, mais pour des raisons diverses. Hein. Mais en tout cas, ce type de programme permet de faire de la formation, et en particulier de la formation sur le terrain. Vous avez une photo d'un field course qu'on a organisé à Naivasha, dans la vallée centrale du Rift, dans lequel on a associé tous les ESR, mais aussi un ensemble de partenaires kényans qui étaient désignés au départ comme associate partner. Et ça, en fait, ça permet d'élargir le réseau et l'impact du projet aussi sur nos partenaires africains. Je vais très vite, des workshops dans le domaine, enfin, sur les archives, ou encore un training vidéo. Pour plus d'informations, vous avez le site. Je voudrais simplement mentionner deux, trois points en termes de, en conclusion, c'est-à-dire que ces projets d'ITN me semblent être, pour une institution comme l'École des hautes études, le cadre parfait pour financer effectivement des thèses de doctorat. De surcroît, effectivement, quand on travaille dans le domaine des aires culturelles, et de surcroît quand on travaille dans le domaine des aires culturelles en Afrique, où effectivement on a des problèmes de formation, d'aboutissement de la thèse, etc. Et là, on a un dispositif effectivement qui est très très intéressant. En même temps, comme tous les programmes européens, effectivement, il y a un investissement parfois complètement gratuit, on va dire, de la part du chercheur qui s'occupe du projet, en particulier sur la question sur des questions de gestion administrative, qui peuvent, comme pour tous les projets européens, poser des problèmes de réception dans les laboratoires. C'est-à-dire que l'obtention d'un projet peut avoir des effets très déstructurants dans un laboratoire. Moi, je ne cache pas que dans mon laboratoire, le projet réel, si vous voulez, on préfère ne pas en parler parce que dans un contexte de pénurie budgétaire, il ne faut pas avoir d'argent. Donc, bon, je dis les choses de façon un peu brutale. Cela étant... ce type de projet, moi, en tant que chercheur, ce qui m'a apporté, je parle là au-delà de la question de l'ITN, c'est vraiment de pouvoir travailler dans un contexte européen et dans des pratiques de recherche internationalisées, une pratique de l'interdisciplinarité avec des collègues archéologues qui réfléchissent sur la longue durée, essayer de connecter un certain nombre de proxys pour comprendre effectivement la question des changements écologiques, ce qui n'est pas forcément évident pour un anthropologue qui travaille sur le présent, et aussi repenser la question qui nous intéresse, par exemple, ici à l'EHS, de comment est-ce qu'on agrège différentes temporalités dans nos problématiques de recherche. Enfin, donc, il y a tout un ensemble d'enjeux théoriques que peuvent faire surgir ces projets et qui, moi, me paraissent tout à fait intéressants. Voilà, j'en ai terminé. Merci.
Merci beaucoup. Voilà, merci bien pour ce franc témoignage. Je me tourne vers David Jasmin, qui vient un peu d'un autre monde, mais qui va nous parler de son projet à l'intérieur de Sciences et Société. Ça s'appelait à l'époque Sciences avec et pour la société.
Donc je vais essayer d'être très court. C'est vrai que c'est un projet un peu singulier, puisque ce n'est pas du tout un projet de recherche, même s'il implique des universités. C'est un projet appliqué à l'école, et notamment à l'éducation scientifique, et qui s'inscrit dans le cadre de notre opération La Main à la Pâte, que vous connaissez peut-être à travers la figure de Georges Sherpak, mais qui a été lancée il y a 20 ans pour repenser les méthodes éducatives en sciences au niveau de l'école primaire au début, et puis de maintenant au niveau du collège, en les rendant plus ancrés sur le questionnement de l'enfant, plus ancrés sur une démarche expérimentale, du travail d'équipe, etc., plus d'ailleurs ancrés sur une démarche de chercheur. Et c'est vrai que c'est une opération française, la plupart de nos activités sont en France, mais on a très vite eu des demandes venant de l'étranger, et on a décidé en 2002 de se lancer dans une entreprise européenne, de répondre à des appels à projets dans le cadre de la DG Recherche, puisqu'en fait l'éducation a un statut un peu particulier en Europe, c'est ce qu'on appelle une compétence nationale, et donc il y a un principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'en principe l'Europe ne peut pas prendre de décision en ce qui concerne le système éducatif, sauf la recherche qui, parce qu'elle fait un lien entre l'éducation scientifique et la qualité des recherches, et, enfin disons la les ressources humaines dans la recherche et la technologie, a lancé des actions dans le cadre sciences pour et avec la société depuis une dizaine d'années. Voilà. Le projet, juste par rapport à la méthodologie, c'est vrai qu'on a commencé sur des petits projets, ce qui a été dit d'ailleurs au début. On a démarré sur des projets de réseautage, enfin de mise en réseau de 5-6 partenaires. Et je trouve que c'est important de commencer petit. Donc au début, c'était des échanges de pratiques. Après, on est rentré dans des phases plus opérationnelles. On a eu un deuxième projet qui a été retenu. On était toujours coordinateur scientifique, qui s'appelait Pollen, où là, on a essayé de se centrer sur les villes scientifiques, des villes qui faisaient de l'enseignement des sciences une priorité. Et on a travaillé beaucoup sur la relation entre l'école et la communauté. Et enfin, on a lancé ce projet Fibonacci, qui est un projet beaucoup plus ambitieux, puisque là, on était sur les villes, on était sur 12 pays. Et là, on est arrivé à 24 pays, 60 partenaires, 60 universités. Donc, c'est un projet assez énorme. Et voilà, donc, qui comporte une grosse part d'administration et qui nous a un peu, qui nous a un peu surpris, mais disons, qui a beaucoup impacté sur le déroulement du projet, puisque nous, on a eu une personne à plein temps sur la durée du projet, qui était 3 ans et demi. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut qu'il y ait des personnes dédiées. Donc, c'est vraiment un plein temps que sur des aspects administratifs qui gèrent les relations avec les partenaires, qui s'assurent que les livrables sont rendus à temps et qui gèrent les relations avec l'Europe, qui sont parfois un peu compliquées, en tout cas très administratives. Et c'est un peu le regret qu'on a sur ce projet. Le projet a donné des résultats très positifs en termes d'impact. On a formé 6000 enseignants donc dans 24 pays. On a touché 150 000 enfants, élèves. Il y a eu beaucoup de production de ressources. La langue était l'anglais, même si après, bien sûr, c'était décliné avec la langue du pays dans les activités de classe. Mais c'est vrai qu'en termes administratifs, on a un contact avec l'Europe où notre référent, on a un référent administratif et financier, a changé 4 fois. Donc, il faut toujours réexpliquer un peu la nature du projet. Et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'évaluation qui est faite du projet, sinon à travers un audit qu'on a accueilli à la fin du projet. Mais on a vraiment une relation très administrative. C'est-à-dire qu'il faut rendre les livrables, des rapports tous les semestres, etc. Et on a été un peu déçus par cette relation qui n'est pas vraiment... où on s'intéresse peu au contenu. Bon, voilà. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les projets. Mais voilà, ça a été un peu notre déception. Bon, le côté positif, le conseil qu'on peut donner, donc voilà, c'est de commencer petit, peut-être jusqu'à arriver à des projets comme celui-là. D'ailleurs, maintenant, on est revenu, on est sur d'autres projets beaucoup plus petits, beaucoup plus modestes, que nous a vaccinés. L'autre aspect, c'est l'évaluation. Donc, nous, on a inclus dans notre projet une évaluation extérieure, ce qui nous paraît nécessaire, qu'on est sur des projets extrêmement ambitieux, puisque là, on est sur un grand nombre de pays. Il y avait un budget conséquent. On a eu un budget de presque, je crois que c'est 3 millions, 5, 4 millions, bon, répartis sur 60 universités, mais voilà, ça nous a paru important de pouvoir mesurer l'impact de nos activités. Et on a inclus dans notre projet, dans notre demande de financement, une évaluation extérieure qui s'est déroulée tout au long du projet. Voilà. Sinon, sur d'autres aspects qui ont déjà été dits, c'est vrai que c'est important aussi d'avoir une gouvernance extrêmement lisible. Donc, on a choisi aussi d'avoir un conseil scientifique de très haut niveau, qui est un peu garant de la qualité de nos travaux. Une gouvernance à l'échelle européenne pour le projet, avec une représentativité de l'ensemble des partenaires, et une gouvernance locale pour tout ce qui est suivi du projet. Je vais peut-être, je vais pas insister un peu sur l'impact du projet, je vais juste peut-être conclure, un peu sur des effets qui ne sont pas forcément visibles quand on lance un projet comme ça. C'est-à-dire qu'en effet, c'est très riche, il y a une coopération européenne qui est très dynamique, et d'ailleurs qui est très dynamisée par les pays de l'Est, qui sont très demandeurs d'une coopération avec les pays occidentaux. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'on s'inspire mutuellement. Nous, on a notre projet, qui était un projet plutôt français, qui est mis en place dans d'autres pays. Et nous-mêmes, on a repris d'autres projets, par exemple en Angleterre, un projet qui s'appelle les Science Learning Center, qu'on a un peu décliné en France. Et actuellement, on est sur un gros projet en France qui s'appelle les Maisons pour la Science au service des professeurs, qui s'inspire directement de l'expérience qu'on a eue dans ce cadre européen. Donc voilà, il y a ce qui est noté sur le projet de départ. Et je confirme, c'est vrai qu'il faut au moins 6 mois de préparation. Et en termes d'équivalent temps plein, pour nous, c'est presque une personne à temps plein sur 3 mois, un mi-temps sur 6 mois. Donc il y a un gros travail, il y a ce qui est prévu dans le projet de départ, et puis il y a ce qu'on obtient à la fin. C'est vrai qu'il y a toujours un peu ces spin-offs, ces effets, ces retombées non prévues qui sont toujours très intéressantes. Donc c'est pour ça que j'encourage personne présente à candidater sur ce type d'appel.
Merci. Merci. Alors, je remercie vraiment les 7 orateurs et je m'excuse auprès d'eux pour les avoir mis dans des conditions difficiles pour s'exprimer. Mais nous sommes un peu pris par le temps. Nous avons déjà dépassé le programme de 35 minutes. Je propose qu'on donne 4-5 minutes pour des questions, pour 2-3 questions. Et éventuellement, je demanderai donc à mes collègues des points de contact nationaux de nous rejoindre ou de répondre de manière très comme ça en se levant, le cas échéant. Alors, je prends d'abord madame. Là, je vois.
Bonjour. Aliénor Calliot, je suis doctorante au CRH. Je suis venue avec ma collègue ici, qui est doctorante au SEMS, à l'EHESS. Non ? Si ? Ok. En fait, nous sommes venus en tant que représentantes d'une association de doctorants qui s'appelle la ALCA, qui travaille sur les mondes musulmans à l'époque moderne et contemporaine. On organise depuis 4 ans des journées d'études tous les ans. C'est pourquoi on a besoin de soutien financier. On en a de la part d'un certain nombre de laboratoires. Nos dernières réunions, on s'est rendu compte. On le sait, mais on a voulu aller dans la direction de travailler peut-être plus avec nos autres partenaires européens, parce qu'en fait, dans beaucoup de pays d'Europe, il y a d'autres associations de doctorants qui travaillent sur les mêmes sujets que nous. Dans ce cadre-là, on est venu ici aussi pour savoir si, pour nous, dans notre cas, il y a des possibilités de financement, d'aide à la recherche au niveau européen, mais qui seraient pilotées, du coup, dans notre cas, par des doctorants. Ou alors, est-ce qu'il faudrait, ou ce serait possible de le mettre en place, mais alors, du coup, avec... soutiens de la part de chercheurs. Okay. Pour, par exemple, organiser une journée d'études au niveau européen sur ce sujet-là, éventuellement publier des actes, ce genre de choses-là.
Alors, sur ça, je peux peut-être essayer de répondre. Alors, je vais peut-être demander aussi donc à Guillaume, peut-être, qui, je ne sais pas s'il est encore là, Guillaume, oui, pardon. Peut-être de répondre sur la partie Marie Curie sur laquelle tu es plus expérimenté. Alors nous, sur la partie en général de financement de la recherche, comme on vous l'a dit, on essaie de financer sur un des critères qui est l'excellence. Bon, ce qui fait qu'on a tendance effectivement à plutôt donner des financements à des chercheurs qui ont déjà eu un certain bagage derrière eux, ce qui presque de facto, normalement, exclut les doctorants qui n'ont pas encore eu le temps de faire leurs preuves. Alors, ceci dit, et ça, c'est, je crois, Gisèle le disait très bien, c'est qu'une fois qu'on a donné donc l'argent à ces groupes-là, à ces différentes universités, entités, etc., nous, ce que l'on attend, c'est que, justement, derrière, ils poussent les jeunes à continuer leur formation. Alors ça peut être soit des bourses au niveau ou des appuis financiers au niveau postdoctoral, mais ça peut être aussi pour des doctorants. Je crois que tu disais d'ailleurs que dans ton cas, Gisèle, il y avait effectivement des doctorants qui étaient financés par le projet. Alors, mais ça dépend, c'est extrêmement variable. Ceci dit, une des choses qui est utile, c'est que puisque vous êtes jugé sur trois critères, et un des critères, c'est l'impact, on a pas mal de projets qui souvent nous disent, mais un des impacts que l'on va avoir, c'est justement de financer des jeunes chercheurs et de les aider, et donc faire de la formation, et notamment à travers l'acquisition donc, de leur doctorat. Donc ça, souvent, c'est un impact qui est cité par pas mal de projets, et que je recommande de citer, parce que souvent, ça s'appelait aux évaluateurs, hein, parce que c'est quelque chose d'assez concret, et qui se passe, et qui a de chance de se passer durant la durée du projet, plutôt qu'un hypothétique impact. Donc ça, c'est quelque chose qui marche. Alors, je ne sais pas si, Guillaume, tu veux dire quelque chose sur le...
Oui, en deux mots. Donc, si j'ai bien compris, vous, c'est de faire payer, enfin, de l'été ou quelque chose comme ça autour de votre thématique. Hein, c'est ça qui est... Ça pourrait. Donc, en fait, grosso modo, ce que vous avez bien compris, l'idée des bourses Marie-Curie, c'est qu'on va financer des salaires. Mais ensuite, quand on va sélectionner, par exemple, un ITN, il y a certainement besoin de création d'une école d'été. Donc, s'il y a le montage d'un ITN avec cette institution, puis une autre en Allemagne, et puis une autre en Roumanie, sur le monde musulman, je ne sais pas quand tu as exactement compris vos activités, et qui, pour ces doctorants qui vont participer à cette ITN, il faut une école d'été sur la thématique, ils vont devoir se baser sur des gens spécialisés en formation. Donc vous pouvez être le partenaire qui va réaliser la formation pour les doctorants recrutés dans cette ITN. Donc vous allez rentrer en tant que partenaire et avec un ou plusieurs personnes. Je pense que faut vous mettre dans ce cas-là, dans ce cadre de réseau. Et sinon, dans le cadre de réseau RISE, donc là où on finance de la mobilité avec des pays tiers, hein, vous pouvez, je ne sais pas si vous collaborez aussi avec des gens en Égypte ou que sais-je, en Turquie ou dans des pays musulmans. Et donc peut-être qu'il y aurait quelque chose à monter sur de l'échange plus fort avec ces gens-là. Mais la chose qu'il va falloir s'assurer, c'est si vous êtes éligible en tant que... Est-ce que vous avez une entité légale, en fait, hein, association, j'imagine, mais oui, vérifiez juste ça, et ça, après, ça devrait marcher. Et sinon, pensez que vous pouvez être effectivement éligible à toutes les parties d'un work package ou work program des thématiques qui vont bien. Il y avait des trucs sur ce matin sur la radicalisation. Peut-être que vous pouvez intervenir là-dedans, quelque part.
Donc, oui, en tout cas... pousser, soutenir, nous, les jeunes chercheurs, étant donné que même les gens qui font leur doctorat, ça c'est une de nos obsessions. Hein. Donc on essaie vraiment d'avoir cet effet-là le plus possible, un effet structurant, y compris à l'étranger d'ailleurs, hein, avec des gens en dehors de l'Union européenne. Alors vous pouvez aussi peut-être certainement, en tant que doctorant, consulter la page web de l'Association européenne de sociologie, où il y a une pétition intéressante qui pourrait certainement concerner beaucoup de doctorants. Alors, je crois qu'on va arrêter ici. Le débat est riche. On aurait pu encore continuer longtemps, mais à un moment ou à un autre, il faut s'arrêter. J'espère qu'on va surtout vous avoir donné l'appétit pour aller un petit peu plus loin. Moi-même, tous nos collègues, nous sommes évidemment disponibles. Et je laisse le dernier mot, évidemment, à Gisèle.
Voilà, c'est juste un mot de remerciement, tout d'abord aux intervenants qui ont pris une très longue matinée pour venir être présents et faire part de leur expérience et témoignages, tout particulièrement à Philippe Quérodrin, qui est venu de la commission pour être avec nous. Je voudrais remercier, évidemment, tout le public qui est resté tardivement. Et puis, je voudrais remercier ceux qui ont œuvré à l'organisation de cette journée, donc... la DDR de l'EHSS dirigée par Philippe Cassella, Jérôme Malois qui était vraiment la cheville ouvrière de l'organisation de cette journée, Myriam Nechad qui donc s'occupe des relations internationales au sein de PSL. Xavier Blanchet, voilà. Nous allons vous transmettre en fait les PowerPoints qui ont été très riches et qui n'ont pas toutes été pu être présentées dans la matinée. Et les PCN, très gentiment, nous ont fait des appels pour les contacter, donc n'hésitez pas, et nous aussi, évidemment, n'hésitez pas à l'ADDR et aux relations internationales. Et je voulais remercier aussi Serge Blérard, qui a filmé cette séance.